Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, j'ai le plaisir dans cette nouvelle émission Éclairage de recevoir Claude Lorius, glaciologue mondialement reconnu, membre de l'Académie des sciences. Ses travaux en glaciologie et ses nombreuses expéditions au pôle sud ont permis de démontrer le réchauffement climatique s'accentuant au fil des millénaires et la corrélation avec les émissions de gaz à effet de serre. Dans son ouvrage « Voyage dans l'Anthropocène », il nous fait profiter de son carnet de bord dans lequel il consigne tout dès 1957 lors de ses expéditions. Il nous livre la totalité de sa démarche scientifique, des recherches jusqu'à la vérification des hypothèses par des faits, des données. Une démarche qui a pris plusieurs dizaines d'années compilée dans ce livre et nous allons en parler dans quelques instants. Claude Lorius évoque dans un second temps cette nouvelle ère que certains scientifiques nomment déjà l'Anthropocène ou comment l'homme transforme la Terre avec les conséquences qui en découlent. Son livre est un outil de réflexion sur ce que nous voulons faire de la Terre. Claude Lorius, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie.
Ok, vous savez bien sûr qu'il y a un co-auteur qui s'appelle Laurent Carpentier, qui a apporté beaucoup dans ce livre.
Alors justement, j'allais le citer, je redonne le titre « Voyage dans l'Anthropocène ». Cette nouvelle ère dont nous sommes les héros, parue chez Actes Sud en janvier 2010, coécrit avec le journaliste Laurent Carpentier, qui décrit donc la planète telle que les hommes sont en train de la transformer. Le terme anthropocène a vu le jour récemment, en 2000. Pouvez-vous nous dire ce qu'on entend par anthropocène, Claude Lorius ?
Eh bien, anthropocène, c'est pour être très court, c'est l'homme qui bouffe l'homme. Ça veut dire qu'après s'être battu contre la nature, l'environnement pour survivre, eh bien l'homme, il en a pris le contrôle. Il en a pris le contrôle, il le domine, et maintenant c'est lui qui massacre la nature dans laquelle il vit. Et ça, c'est une situation qui va déboucher sur, à mon avis, des catastrophes.
Alors, on va en reparler au cours de cette émission. Une ère, en théorie, s'étale sur plusieurs millénaires. Or, cette ère de l'Anthropocène est relativement courte pour l'instant.
Oui, c'est bien vrai, mais je crois que c'est un des sujets de discussion au sein des académies à l'étranger aussi. En 2012, il doit y avoir un congrès. C'est effectivement quelque chose de tout à fait anormal, mais il faut dire que les aires géologiques, là, c'est vraiment aussi l'ère humaine. C'est l'histoire de l'homme là, qui devient importante.
On va ouvrir les pages de votre ouvrage. Les premières pages, et jusqu'à la première moitié donc, de votre ouvrage, est concernée à votre carnet de bord. Vous prenez des notes au cours de vos expéditions. Grâce à votre carnet, nous vous suivons de 1957 à 1984 à travers les coopérations scientifiques internationales qui font fi de la guerre froide. Surtout, on suit votre démarche scientifique, comme j'ai pu le dire en introduction, votre hypothèse qui paraît évidente aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque, c'est-à-dire que les bulles d'air emprisonnées dans la glace pourrait être des vestiges du temps, ce sont vos propos, jusqu'à la corrélation qui peut être faite en 1985 et qui, à travers les hausses des courbes de température, montre qu'il peut y avoir corrélation avec les émissions de gaz à effet de serre. Pourriez-vous nous dire, puisque là j'ai malheureusement résumé en quelques lignes, pourriez-vous nous dire quels sont les moments forts de vos expéditions qui vous ont marqué, Claude Lorius ?
Ben, la première, c'est quand, à l'âge de 23 ans, je me suis engagé à aller hiverner en Antarctique. C'est un an, trois personnes isolées dans les glaces. Et là, c'est très riche au point de vue humain, parce que là, on apprend que tout seul, on ne peut pas survivre. Et pour moi, ça a été une grande leçon. C'est le début aussi des progrès scientifiques. Le deuxième, c'est des raids d'exploration avec les Américains. Et à la suite de ceci, on est capable, en analysant la glace, de dire la température qu'il faisait au moment où cette glace s'est formée, c'est-à-dire remonter dans le climat du passé. Et puis peut-être la date la plus importante après, c'est quand, en pleine période de la guerre froide, un avion américain de l'US Navy emmène trois chercheurs français à la station Vostok, qui est une base soviétique. Et ça, c'est un accord intervenu, si vous voulez, entre un jeune soviétique, un jeune américain, un jeune français à l'époque, c'était moi, qui avait vécu justement cette solidarité de l'Antarctique. Et on a construit ensemble ce projet au temps de la guerre froide. Imaginez-vous si j'étais passé par les canaux officiels. Et de là est né un article qui a, je crois, marqué le monde. C'est un article publié dans Nature en 1987 qui justement dit là, pour la première fois, voilà pourquoi nous montrons que le climat et les gaz à effet de serre, et notamment le dioxyde de carbone, ça marche ensemble. Parce que ça, évidemment, on sait très bien que le CO2, c'est un des gaz que l'on émet de plus en plus dans l'atmosphère.
Alors effectivement, on est dans une période de l'histoire où il est question de courbes de température, mais pas encore de mettre le doigt sur les archives de l'atmosphère, hein. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Comment ces glaces de l'Antarctique peuvent-elles conserver des traces de l'activité humaine alors que l'homme ne vit pas en Antarctique ?
Eh bien justement, si vous voulez, il se trouve que bon, le climat, les grandes variations climatiques, ça concerne toute la planète. Pas avec la même amplitude, bien sûr, hein. Elles sont plus marquées dans les régions polaires qu'à l'équateur. Mais enfin, les grands cycles climatiques naturels, ils existent et on les trouve bien dans la glace. Vraiment, la nouveauté, ça a été de trouver que les concentrations de dioxyde de carbone augmentaient de façon très importante. On les mesure dans l'atmosphère à peu près depuis 50 ans. Et nous, nous avons 1 million d'archives qui montrent les variations du CO2. Des variations lentes et peu importantes lorsque c'est le climat qui gouvernait la composition de l'atmosphère en CO2. Et puis tout d'un coup, tout s'envole. Et il suffit de regarder ces courbes pour voir qu'on sort de tout ce qu'on a vu depuis 1 million d'années. Et là, bien sûr, nous, on comprend que la seule façon d'expliquer le réchauffement climatique qui est un peu anormal que l'on observe depuis quelques décennies, eh bien, il est dû à ces gaz à effet de serre que l'homme émet. Le CO2 a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il intègre toutes les activités humaines. Si vous brûlez une forêt, vous faites du CO2. Si vous démarrez un moteur, si vous roulez avec votre voiture, vous faites du CO2. C'est donc plus ou moins un intégrateur. Et son autre chose, c'est qu'on mesure la même concentration du CO2 au pôle sud qu'aux portes de Paris. C'est donc un intégrateur mondial et ça a été, je crois, la réussite par chance, parce qu'au début, on n'avait aucune idée qu'on arriverait à ça, que ce CO2, eh bien, il expliquait beaucoup de choses sur l'évolution du climat de notre planète.
Ces carottes que vous avez pu donc récupérer en faisant des forages dans ces glaces dans l'Antarctique sont le miroir du passé.
Le miroir est un terme, il ne raconte pas les événements humains ou des choses comme ça, mais disons que sur les plans, en tout cas, de l'évolution du climat, de la pollution, oui, c'est un enregistrement. Écoutez, c'est quand même extraordinaire, vous avez un continent de 15 millions de kilomètres carrés, il est à l'autre bout du monde, et là-dessus, il y a quelques scientifiques qui viennent. Et pourtant, on y trouve ce CO2 qui est dû aux activités industrielles. C'est extraordinaire. Quand vous voyez que c'est là-bas, eh bien vous vous dites que oui, la planète, c'est l'ensemble de la planète qui est concernée. Et ceci concerne en particulier les mesures de radioactivité que nous avons faites il y a plus de 30 ans au pôle sud. Aujourd'hui, on parle du Japon. C'est un problème et tout le monde le sait. Mais nous, nous avons écrit il y a 30 ans, on a mesuré effectivement la radioactivité dans les neiges du pôle sud. Et là, on a retrouvé l'essentiel des tests qui étaient menés dans l'hémisphère nord. C'est donc pour dire que la radioactivité, c'est aussi un problème global. Bien sûr, ça n'a pas eu tellement d'écho parce que les doses qu'on pouvait mesurer ne posaient pas de problème de santé. Néanmoins, c'est un indicateur de l'état global de l'atmosphère et on voit bien maintenant le problème qui est tout à fait d'actualité depuis ces événements qui ont démarré le 11 mars au Japon.
Justement, vous avez apporté toute une série de photos, et notamment des photos qui sont consacrées à Fukushima. En quoi cette catastrophe de Fukushima vous concerne en tant que glaciologue, outre les résidus que l'on peut trouver dans les glaces ? Je vous lance sur un terrain glissant.
Non, elle ne me concerne pas en tant que glaciologue, elle me concerne en tant que citoyen préoccupé par l'environnement de la planète. Parce que je trouve que ce développement des centrales nucléaires au Japon, c'est quand même extraordinaire. Comment l'homme a-t-il pu arriver à se mettre dans un tel état de vulnérabilité, à ce qu'on ait des catastrophes comme ça? Alors là, j'avoue, je ne comprends pas. Et le Japon n'est pas le seul pays. Et maintenant, bien sûr, on peut dire « Ah, mais comment se passer de l'énergie nucléaire ?» Ben, en fait, on n'a pas financé d'autres recherches que le nucléaire depuis pas mal d'années. Et je veux dire, à l'extrême, on a l'impression que là, la nature, à travers le tsunami, les inondations, reprend le dessus et se venge. Se venge de l'homme qui ne l'a considère pas assez.
Vous pensez que l'Anthropocène, c'est en fait la période de destruction de la Terre ?
J'ai pas dit ça. J'ai dit que peu à peu, c'est la période où l'homme prend le contrôle de l'environnement de la planète. Et le CO2 est un paramètre, je veux dire, majeur dans cette affaire, comme je l'ai dit, parce qu'il reflète l'ensemble des activités. Donc c'est là qu'il prend le contrôle. Et puis maintenant, on voit bien qu'on fait, on devrait voir qu'on fait fausse route. Mais de là à prendre des actions, on n'en est pas encore là.
Et on va en parler. Vous parlez plusieurs fois du CO2, alors pardon, je vous pose la question, mais il y a quand même des scientifiques qui sont maintenant assez prudents sur l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique. Vous qui avez pu faire ces corrélations, et notamment à travers des graphiques que vous nous avez aussi apportés ici au studio et que l'on retrouvera sur le site de Canal Academy, faisons bien là, justement ce parallèle entre réchauffement climatique et émissions de gaz à effet de serre. Comment interprétez-vous ce côté prudent vis-à-vis de cette corrélation avec le CO2, entre réchauffement climatique et CO2 ?
Écoutez, c'est peut-être votre sentiment, mais en tout cas les débats récents qui ont eu lieu à l'Académie, auxquels je n'ai pas participé d'ailleurs pour différentes raisons, je ne vois pas en quoi on remet en cause les gaz à effet de serre comme explication du réchauffement climatique actuel, qui est un peu inhabituel, qui va au-delà des normes, et personne jusqu'à maintenant n'a pu montrer qu'il y avait effectivement un autre paramètre qui pouvait expliquer ça. Alors, il y a toujours des doutes, c'est compliqué, c'est tout ce que vous voulez. Et puis, il faut voir aussi que dans cette perception, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de spécialistes du climat. Et moi, je suis content de voir la lettre de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui est sortie et qui redit bien que la dernière décennie, oui, la température de cette année, ça fait partie des trois plus hautes températures qu'on a vues. On ne peut pas nier le réchauffement climatique. On a commencé à le nier, ensuite on a voulu nier la cause de ce réchauffement climatique. Mais je n'ai vu aucune explication, y compris dans les discussions qui ont eu lieu au sein de l'Académie, comme quoi on pouvait expliquer autrement ce réchauffement climatique actuel. Et vous savez, quand vous avez une courbe d'un million d'années dans laquelle vous voyez les variations naturelles du CO2, et leur envol depuis l'année 1900, puisque c'est là qu'on dit « oui, le début de l'Anthropocène, c'est là ». Eh bien, c'est incroyable, je crois qu'il faut vouloir se fermer les yeux. J'ajoute une deuxième chose, si vous voulez, c'est que, comme tous les sujets, je trouve que dans ce domaine, les médias ont une responsabilité importante, parce qu'il est facile de convoquer des gens, des provocateurs et tout ce que vous voulez. Mais ça ne change rien à la réalité des choses. Et vous avez, vous aussi, la responsabilité d'assurer que la transmission, notamment dans un milieu comme celui de l'Académie, eh bien, elle essaie de ne pas trop cultiver cet aspect se faire boire.
Juste pour terminer sur cette question relative justement à la remise en cause du réchauffement climatique, disons-le.
Non, pas remis, il n'y a pas de remise en cause. Citez-moi quelqu'un qui la remet en cause. Non, j'en connais deux, trois, et on peut critiquer absolument ce qu'ils ont osé écrire.
Il y a des climato-sceptiques, c'est le terme qu'on leur
a
donné.
Oui, mais écoutez, les climato-sceptiques, moi, aucun de ces gens-là n'a réellement écrit de livre sur le climat. En tout cas, pas ceux qu'on a vu paraître en France.
Alors, juste une dernière question, mais je vous vois devenir rouge et très énervé.
Absolument,
je vais pas vous monter.
Vous avez fini de m'énerver, là, oui.
Je ne voulais pas vous énerver, mais vous êtes d'accord que lorsque les thèses climato-sceptiques sont arrivées, et notamment en France, il y a eu un écho relativement favorable du public.
Bien sûr.
Comment vous l'expliquez, ça ?
Je vous explique. Si vous publiez, pour moi, le scientifique, c'est ce qu'il publie dans des revues scientifiques. Ce n'est pas s'il écrit un manifeste qu'un maison d'édition va décider. Justement parce que ça va provoquer, parce qu'il y a des personnalités mises en cause. Et pour moi, ça, ce n'est pas une référence.
Alors avançons, si vous voulez bien, restons sur ces archives polaires. Nous parlions jusqu'à présent de l'Antarctique. Mais qu'en est-il du pôle Nord, notamment du Groenland, Claude Lorius ?
Bien, le Groenland, si vous voulez, peut-être la chose essentielle dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que l'Antarctique, c'est un continent unique et qu'il y a un traité qui le protège. Je dirais que c'est quelque chose hors norme sur la planète. Il y a, suite à l'année géophysique internationale en 1957, là, quand j'étais en Antarctique, eh bien, il y a eu la signature d'un traité qui s'appelle « Sur l'Antarctique ». Et dans ce traité, si vous voulez, on dit qu'on ne peut pas aller là-bas et faire n'importe quoi et qu'il faut rendre compte des dommages que l'on peut créer à la Terre. Alors, c'est absolument unique qu'il y ait un contrôle des choses que vous pouvez aller faire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une préface que vous voulez peut-être évoquer.
C'est oui, tout à fait. Rocard. Il y a la postface, effectivement, de Michel Rocard qui explique le contexte dans lequel a été signé ce traité de l'Atlantique. Quand on lit ces quelques pages, quatre pages, on se dit que finalement, la conservation d'un patrimoine vierge encore, ou presque vierge, de la main de l'homme, ne tient qu'à un fil,
qu'à une
signature.
Oui, c'est vrai, si vous voulez, c'est un peu la même idée que ce que je vous ai dit quand on a hiverné à Vostok. La solidarité, et surtout quand on est allé à la base soviétique de Vostok, c'est quelques individus. Alors évidemment, quand vous avez quelqu'un de la pointure de Michel Rocard, c'est tout à fait autre chose. Mais vous savez que Michel Rocard, dès qu'on a publié nos premiers articles, il était Premier ministre et il m'a fait venir à Matignon pour me demander ce que nous faisions. Et pourquoi ? Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que ce traité risque d'être remis
en cause,
en question, parce qu'on voit des tas de pays maintenant qui sont là, qui sont intéressés, en se disant que peut-être un jour, on aura l'autorisation d'exploiter de possibles ressources qu'il y a dans le sol. Espérons que ce ne sera pas comme ça. Mais pour répondre à votre question, dans l'article, ce n'est pas du tout le même problème. Parce que là, il y a des États. Et les États, ça, c'est autre chose. Les freins, si vous voulez, à ce qu'on s'intéresse plus à l'environnement, c'est d'abord l'individu qui a envie de confort, d'être riche, d'être, y compris moi d'ailleurs. Mais ce sont aussi les États. Et dans l'article, le problème est tout à fait différent. Parce qu'il y a des pays qui revendiquent des territoires qui couvrent l'océan. Et donc, on a vu les Russes planter un symbole au fond de l'océan. On voit que les Chinois disent « mais c'est la mer ouverte et on peut y aller ». Et donc, Michel Rocard a accepté là une mission qui va être beaucoup plus difficile parce que la France n'a qu'une position, je veux dire, relativement faible face à tous ces pays possesseurs de ces territoires et de ressources, parce qu'on sait qu'il y en a.
Donc, nouvelle zone d'exploitation, nouvelle zone
aussi.
De passage aussi,
oui,
dans le Groenland, avec tout ce que ça implique sur la biodiversité.
L'autre chose, parce que je suis quand même glaciologue et scientifique, c'est que l'Arctique est effectivement est très sensible au réchauffement climatique à cause de la banquise. La banquise, c'est de 3 mètres d'épaisseur qui vont facilement dégeler si le climat se réchauffe. Si ça se dégèle, au lieu que la neige renvoie 90% du rayonnement solaire, c'est l'océan qui va absorber cette énergie et donc réchauffer beaucoup plus la planète. Alors s'il y a une toute petite place là dans l'histoire du glaçon que vous avez évoqué, c'est aussi une leçon. Parce que si vous prenez un verre de whisky, que vous mettez un glaçon dedans, vous voyez que le niveau monte. Et ça, c'est la banquise, elle est en place. Et lorsque la banquise fond, le niveau dans le verre ne change pas. Donc la fusion de la banquise n'a rien à voir avec l'élévation du niveau des mers qui existe par ailleurs, mais par contre, elle a à voir avec l'amplitude de la variation du climat.
Alors, pour revenir sur cette postface de Michel Rocard, sur ce traité de l'Antarctique, il y a une anecdote qui prête à sourire, ma question vient après. Michel Rocard dit qu'il a toutes les signatures pour pouvoir stopper cette exploitation de l'Antarctique. Il manque les signatures des Américains.
Il n'y avait pas d'exploitation encore, mais on voulait mettre un barrage.
Ouais. Tout à fait. Et donc, il manque la signature des Américains. Et pour obtenir la signature des sénateurs américains, Elle demande à Jacques-Yves Cousteau, qui pour autant n'avait pas forcément d'acquaintance spéciale avec Michel Rocard et avec le gouvernement français, de diffuser son documentaire « Le monde du silence ». Et petit à petit, effectivement, eh bien, les Américains se rallient à la cause et signent ce traité de l'Antarctique. Est-ce que, et donc ça sera ma question, vous pensez qu'il faut faire du lobbying en faveur d'une protection de l'Antarctique, ou voire même du Groenland, qui là pour le coup est un État et non pas un continent qui n'est pas occupé par un État particulier?
Oui, bien sûr, il faudrait le faire. Et je pense que là, il a eu tout à fait raison, parce que le scientifique tout seul, ou même le politique, même s'il est un peu connu comme l'était Michel Rocard, il a besoin des médias dont on parlait tout à l'heure. Et quoi de mieux que d'avoir des gens comme Cousteau, qui effectivement était très connu. Et les problèmes se posent à nouveau actuellement. D'ailleurs, est-ce que dans les candidats politiques, il faut avoir quelqu'un du milieu des médias ou quelqu'un d'un peu plus basique au point de vue politique? Donc, on a besoin, parce que c'est ça le vrai problème. Comment mettre en route la machine? Moi, j'ai l'impression qu'on ne va jamais y arriver. S'il n'y a pas des gens comme ça, je pense que Cousteau a rendu beaucoup de services. Je pense que des gens qui font ce genre de travail, nous on avait Paul-Émile Victor qui a aussi rendu beaucoup de services et qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. On a besoin de gens comme ça. Nous, on ne fait pas le poids auprès des médias.
On montre du doigt l'économie capitaliste comme responsable de cette fuite en avant, une économie dont nous sommes tous responsables. Pour autant, certaines actions ont-elles changé les mentalités, mis à part ce traité de l'Antarctique qui est un bon exemple? Et surtout, qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter la casse, même si vous venez de nous dire que vous étiez assez pessimiste, Claude Lorius?
Oui, je vous l'ai dit, parce que je ne vois pas trop comment on peut arriver à bousculer quelque chose qui va contre le désir du citoyen et des États. Et on voit bien que, passé aux actes, le Grenelle a suscité de grands espoirs. Et puis, quelque temps après, on voit bien que pratiquement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, oui, moi, j'avoue que je suis un petit peu sceptique. Ce en quoi je crois, et c'est pour ça que j'essaie, malgré mon jeune âge, d'intervenir un peu, je crois en l'éducation. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Je crois aussi dans le message de gens comme Michel Serres. Michel Serres qui a publié « Le temps des crises ». Voilà. Et puis Edgar Morin, bien sûr, dont je pense que j'admire beaucoup ce qu'il raconte. Et une idée qui me plaît beaucoup chez lui, c'est que ces noms très connus n'ont pas non plus de solution à proposer. Et j'aime bien reprendre l'idée d'Edgar Morin qui dit « Eh bien, on a une période de crépuscule ». Et le crépuscule, il faut le savoir, c'est un double sens. Ou bien le soleil se couche, et alors la crise va mal finir. Ou bien c'est une nouvelle aube qui s'annonce. Et on ne sait pas trop comment elle va arriver. Il y a ici ou là des soubresauts, des actions, des gens, des émissions comme celles que vous faites peut-être. Eh bien, ça donne de l'espoir et on rêve d'un autre crépuscule.
En 1992, un nouveau terme est apparu, celui d'empreinte écologique. Est-ce que ce terme d'empreinte écologique peut permettre aux citoyens de prendre conscience de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils produisent par conséquence?
Ça peut aider, ça fait partie des messages qu'on peut donner. Comme nous, on dit, vous n'avez qu'à regarder l'épaule et vous voyez bien que ça ne va pas. Donc ça peut effectivement aider à ça. L'idée de cette empreinte écologique, elle est quand même de dire que, vu ce que l'on consomme, on ne va pas pouvoir continuer tout le temps comme ça. Alors face à ça, eh bien, il faut bien réaliser que c'est comme ça. Et certains États ont réalisé, eux, que c'était comme ça, simplement en acquérant des terres dans des pays pauvres qui ont besoin d'argent et qui sont prêts à vendre des morceaux justement de terre où il peut y avoir peut-être des ressources alimentaires plus tard, ou du pétrole. On rachète les droits de pomper le pétrole.
Alors justement, c'est quelque chose que j'ai appris dans votre ouvrage, Voyage dans l'Anthropocène, coécrit avec Laurent Carpentier. Donc vous citez justement cette étude d'une ONG qui s'appelle Grain, qui est installée à Barcelone, qui cite 5 pays, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et le Japon, qui disposent aujourd'hui de 6,7 millions d'hectares de terres agricoles achetées aux pays pauvres.
Oui, vous voyez bien que cette liste, ce sont des pays riches. Oui, bien que cette liste, il n'est pas sûr que... Ben, il n'y a qu'à prendre le Japon en exemple, si vous voulez. Justement, là, c'est le drame en ce moment. Mais on sait bien qu'ils n'ont pas les capacités de produire des tas de choses. C'est une île, entre guillemets, une longue île. Et donc, mais c'est comme dans la société, si vous voulez. Le pouvoir de l'argent permet de faire ceci.
On va arriver dans une situation très curieuse. Dans ces pays en voie de développement où sont susceptibles de se développer des famines, il y aura parallèlement sur ce même terrain, sur ce même territoire, des terres cultivées et réservées à ces pays riches.
Oui, ça semble bien tout à fait possible. Et je suis content que vous ayez la même vision que moi là-dessus. C'est pas normal, mais c'est un des contresens de notre... Anthropocène, justement.
Donc on va développer des guerres civiles.
Mais si vous voulez, les guerres civiles, on les évoque à propos... elles existent déjà. Hein, c'est les grands problèmes d'accès à l'eau douce, par exemple. Donc on va détourner tel fleuve, et forcément, ça ne va pas aller à l'autre. Donc on sait très bien qu'il va y avoir des problèmes de guerre, il y en a déjà, qu'il y aura des problèmes de migration, qu'il y aura des problèmes de famine... Moi, je ne vais pas reciter tous ces chiffres que l'on cite dans l'ONU. Ce n'est pas des gens qui sont normalement obtus comme peut l'être un glaciologue. Non. Et on parle de milliards d'humains. C'est quand même assez extraordinaire. Et après ça, on va nous dire que ce n'est pas urgent de s'occuper de l'environnement.
Pour terminer, dans votre ouvrage, vous êtes quand même un peu moins pessimiste que là au micro, puisque vous dites que le pessimisme est un frein pour agir, mais que l'on pourrait peut-être envisager des solutions extrêmes pour réduire la température de l'atmosphère. Alors qu'est-ce qui pourrait être envisagé, même si là on entrerait dans le domaine de la science-fiction dans certains cas ?
Non, mais ça, si vous voulez, c'est bien dans un bouquin écrit par deux auteurs de prendre un terme. Moi, je ne crois pas à ce miracle qui, par exemple, est d'envoyer des miroirs dans l'espace pour renvoyer le rayonnement solaire pour éviter le réchauffement. Non, je veux dire, pour moi, ça, ce n'est pas ma tasse de thé.
Stocker le CO2 sous terre, vous n'en parlez pas dans votre ouvrage, sauf erreur de ma part.
Non.
Ce serait une réalité à court terme ?
Non, écoutez, parce que là, d'abord, moi, j'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est que dans beaucoup de ces actions qu'on développe pour le développement durable, il reste à prouver que c'est faisable et que c'est faisable sans dégâts ultérieurs. Parce qu'on a eu des exemples, justement, déjà, dans le fait d'aller enfouir le CO2. Il y a eu des problèmes en Afrique, je ne sais plus à quel endroit.
Mais en France, je crois aussi qu'il y a déjà des...
Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Théoriquement, c'est bien. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de faisabilité. Il y a un terme qui m'énerve un peu, c'est innover. Parce que innover, si vous voulez, ça veut dire faire autre chose. Mais ça, ça n'a pas de sens éthique, ça n'a pas de sens moral. Si on veut faire autre chose, il faut d'abord montrer, faire des expériences et tout, que ça a un sens sur le plan humain. Sinon, ce n'est pas la peine d'innover.
Alors, comment vous envisagez le futur d'ici 2030, 2050, voire même 2100 ?
Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne le verrai pas. Ça, c'est sans aucun problème. Non, je vous l'ai dit, je suis assez pessimiste, mais je crois en des phrases comme le crépuscule et même ces choses qu'on voit sortir maintenant qui sont des embryons de fonctionnement. Mais est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va entraîner tout derrière ? Le citoyen, les États, les pouvoirs économiques, l'argent, tout ça. Non, aujourd'hui, moi, je ne vois pas que ça va se faire comme ça.
Eh bien, je vous remercie, Claude Lorius. On termine sur une note pas très gaie, mais en même temps, voilà, c'est votre parole. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Claude Lorius, coécrit avec le journaliste Laurent Carpentier, « Voyage dans l'Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les héros », publié aux éditions Actes Sud en janvier 2011. Merci à vous, Claude Lorius.
Et merci à vous de nous avoir reçus.